12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui au manga. Deux mangas qui mêlent tous les deux classiques de la littérature et grandes figures du manga, Sang et Bas-fond Tokyoïte. D'abord les contes du caniveau de Tadao Tsuge, puis Crescent Moon Dance with the Monster, le premier volume de Kazuhiro Fujita.
Et nous en débattons ce midi avec vous, Pauline Croquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde dans la rubrique Pixel. Face à vous, Fausto Fazulo. Bonjour Fausto.
Bonjour.
Fondateur de la revue Atomeco, directeur artistique du Festival d'Angoulême. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture.
Et on commence avec les contes du caniveau de Tadao Tsuge aux éditions Cornelius.
À Tokyo, des bandes de sans-abri ont cherché un asile dans les souterrains de la gare de Ueno. Dans le monde entier, les mêmes spectacles se répètent. Dans ces souterrains, l'an dernier, des centaines de malheureux ont péri sans air ni lumière. Pour éviter la répétition de pareils faits, le gouvernement japonais a décidé de faire évacuer les lieux par la police. Il n'en fallait pas moins pour vider de ces misérables clochards cet asile pestilentiel.
Pour qui n'aurait jamais lu un manga de Tadao Tsuge, comme c'était mon cas, ouvrir ses contes du caniveau sans rien connaître ni au style ni au propos de l'auteur, c'est faire l'expérience d'une parfaite adéquation entre un titre et son contenu, car c'est bien une descente dans les bas-fonds de Tokyo que nous offrent ces sept contes. Ça se pique et ça pique, zonards, enfants maltraités, petites frappes, proxénètes, alcooliques se côtoient dans les ruelles misérables de Tateishi, l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale de l'après-guerre. L'un des quartiers aussi dans lesquels a grandi Tadao Tsuge avec son grand frère, également mangaka. Paru entre 1969 et 1974 dans le magazine d'avant-garde Garo, pas misérabiliste mais pas édulcoré, qu'avez-vous pensé de ces contes du caniveau, Pauline Croquet ?
Écoutez, il faut avoir le moral bien accroché.
J'avoue.
Mais sinon, c'est une très belle lecture. Ce qui m'a beaucoup plu, moi, chez Tadao Tsuge, c'est ce côté un peu anthropologique, un peu un fatalisme documentaire. C'est-à-dire que c'est un quartier qu'il a beaucoup, qu'il a connu. Hein, il y a passé les 20 premières années de sa vie. Très jeune, il a été confronté à la violence, d'abord domestique, mais aussi la violence de la rue avec des personnages, des situations interlopes. Et en même temps, il offre quelque chose qui n'est ni bienveillant ni condescendant. C'est un regard qui n'est pas neutre non plus. On sent qu'il s'intéresse à ces gens-là, mais il garde une certaine réserve, bien que ces gens l'ont touché et ont participé de son éducation et de sa vie de jeune homme. Et donc ça, c'est très intéressant de voir ce côté-là, là où son frère Yoshiharu Tsuge, lui est plus qui a connu la même vie, est plus dans le récit du jeu, dans l'autofiction, dans
l'autobiographie en fait.
Voilà. Et ça m'a beaucoup plu de voir ce deuxième pendant. Finalement, avec un même début de vie, quelque part.
Fausto Fazulo, vous aussi, vous étiez bien accroché pour découvrir ces contes du caniveau.
Oui,
vous étiez préparé
va.
Quand même.
Moi, j'aime bien les histoires feel bad, donc ça a plutôt tendance à me réconforter. Mais je pense que
alors là, vous allez m'expliquer parce que là, quand même, être réconforté.
C'est toujours réconfortant parce qu'on se dit que nous, on a la chance de ne pas vivre ça, donc en fait, c'est une sorte de miroir inversé. Mais ce que je trouve intéressant dans les mangas des frères Tsuge, c'est que je pense que s'ils fonctionnent aussi bien auprès du public, c'est qu'on sent leur très grande sincérité. C'est-à-dire qu'on sent que ce sont des histoires qui ont été écrites et dessinées par des gens qui les ont vécues. Et ça, en fait, c'est un écho que très peu de mangaka peuvent proposer à leurs lecteurs. À la différence, peut-être, effectivement, que chez Tadao Tsuge, il y a un petit peu moins de complaisance que chez Yoshiharu, donc son grand frère. Et que par conséquent, il y a une sorte, peut-être, un peu plus de froideur, je trouve, quelque chose d'implacable, qui peut être la chose qui dérange le plus. Et puis, il y a cet aspect, comme le disait aussi très justement Pauline, quasiment documentaire. C'est vrai que cette période du Japon, donc l'immédiate après-guerre, le Japon de la reconstruction, ce Japon des bas-fonds, en manga, en France, on le connaît assez peu. On le connaît au cinéma, puisqu'un cinéaste comme Shoei Imamura, par exemple, a beaucoup dépeint ça à travers ses fictions. Mais c'est vrai qu'en manga, on a assez peu de lectures à se mettre sous la dent et qui nous permettent de se figurer de manière un petit peu plus concrète ce à quoi ressemblait ce Japon, voilà, juste avant les Jeux Olympiques, juste après la guerre, donc dans une phase effectivement de reconstruction. construction et d'expansion économique auxquels n'ont pas toujours accès tous les personnages, auxquels n'ont pas du tout accès même les personnages que dépeint Tsuge.
On est loin du Japon aussi, d'une sorte de mythe japonais, d'un pays lisse, propre, rangé. Alors effectivement, hein, ces gens-là, ces exclus, ces marginaux, ils sont un petit peu cachés. Est-ce qu'on peut dire que Tadao Tsuge, peut-être il faut le présenter avant tout, Pauline Croquet, voilà, dire qui c'est en fait, est-ce qu'il est connu au Japon, est-ce que nous en France, dans le manga, c'est un nom qu'on connaît au-delà de son frère?
Alors effectivement, le patronyme de Tsuge, on le connaît notamment à travers son frère, mais les frères Tsuge sont pas les plus connus parce qu'effectivement, ils font partie de cette vague du manga alternatif. Yoshiharu Tsuge, donc le frère aîné, a eu quand même une carrière professionnelle. Tadao Tsuge, s'est dit dans l'accompagnement critique de l'ouvrage, c'est un mangaka par intermittent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment vécu de son travail, qui a pu être publié parce qu'à une époque on recherchait des bras pour dessiner, pour remplir des magazines, et donc en fait les magazines faisaient feu de tout bois et de tout créateur. Malheureusement, il ne pouvait pas en vivre, et donc à côté de ça il écumait les petits boulots, et des petits boulots qui ont alimenté aussi son travail narratif, puisque par exemple, on voit, il y a une histoire qui se passe dans une banque de dons du sang dans laquelle il a travaillé.
Le pire compte pour moi. Je vous le dis tout de suite,
c'est
le pire compte
pour moi.
C'est
très glauque, puisqu'on a vraiment...
C'est pas du don, attention, parce qu'on est payé.
Non,
hein.
Non, c'est ça, effectivement.
En fait, c'est une banque de sang, littéralement.
Une banque de sang, effectivement, où les gens attendent, et normalement, il y a une réglementation, mais les gens l'outrepassent pour pouvoir donner un maximum de sang pour récolter...
Le maximum d'argent.
Le maximum d'argent, donc on sent des gens vraiment quasiment cadavériques, enfin voilà, c'est d'une tristesse absolue. Donc il a travaillé dans ça, il a été livreur de bonbonnes de gaz, donc c'est pareil, il y a une histoire d'un livreur de bonbonnes de gaz, pareil, qui a des patrons lubriques très bizarres comme ça, et qui les raconte. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal galéré, et qui a 24 ans s'est marié, je crois, donc a quitté ce quartier tokyoïde pour s'installer ailleurs, et avec sa femme et sa belle famille, et là et donc il est devenu à mener une vie de commerçant, mais commerçant un peu fauché.
Il a pris l'entreprise familiale de sa femme, de quincaillerie. Voilà.
C'est ça. Et donc voilà, il s'est endetté. Voilà, on va dire des commerçants un petit peu fauchés en vivotant. Et puis je pense toujours aussi cette volonté d'embrasser le métier de mangaka, mais en même temps des rendez-vous manqués. Il y a un moment très intéressant, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, il y a son frère qui écrit un texte, donc qui explique en fait, qui raconte Tadao Tsuge, et ils expliquent aussi qu'ils ont essayé de travailler ensemble, et que c'est une succession de rendez-vous manqués. En fait, ils ne sont jamais trop compris non plus. Donc voilà, on sent que c'est une carrière un peu triste, mais à la fois très chiche et très riche, très riche quand on lit les histoires.
Est-ce que c'est pour ça qu'on pourrait dire aujourd'hui, Fausto Fazulo, que Tadao Tsuge est redécouvert en France, notamment avec cette publication, hein, c'est des contes qui ont été publiés entre 69 et 74. Là, on peut dire que c'est un premier volume, que ça va donner une suite. Est-ce que là, il y a une redécouverte de ce style-là, qui est de l'ordre de l'autobiographie, mais documentaire?
Oui, assurément. J'espère maintenant que les éditeurs français, notamment Cornelius, mais j'en suis quasiment convaincu, va poursuivre dans cette voie-là. C'est vrai que, déjà, la découverte de Yoshiharu Tsuge a été un choc en France.
Donc son grand frère, oui.
Voilà, son grand frère. En fait, les frères Tsuge, c'est un peu des mangaka qui sont avant tout appréciés par les autres mangakas. C'est vrai que c'est des noms qui reviennent souvent sur le tapis quand on interroge des artistes japonais. Ils évoquent souvent Tsuge, le grand frère, donc Yoshiharu, comme étant une sorte de modèle insurpassable, ou du moins quelqu'un qui s'est tellement révélé dans ses mangas qu'en termes de récits autobiographiques, il a en quelque sorte donné le là. Et c'est vrai que Tadao est un petit peu moins connu, parce qu'effectivement, sa production est plus limitée. Et ce qui est assez intéressant et comment dirais-je, et assez ironique dans la postface de son frère, pardon, j'ai ma voix qui se met à vriller, c'est qu'il dit en somme que son frère, donc Tadao, aurait pu être un mangaka commercial, qu'il aurait pu avoir une carrière. Et
mais ça a un rendez-vous manqué parce qu'il n'a pas voulu, ou parce qu'il ne correspondait pas aussi à ce qui se faisait? C'est-à-dire que la manière...
Il y a un peu des deux, semble-t-il. Il y a à la fois, c'est quelqu'un qui a toujours malheureusement joui de malchance, et en même temps, est-ce qu'il avait vraiment envie de se couler dans un moule? Rien n'est moins sûr.
Voilà, surtout que quand on découvre ces contes du caniveau, on pourrait parler aussi du style. C'est quelque chose, vous l'avez dit, d'assez épuré, très clinique.
C'est ascétique, oui.
C'est très ascétique, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir du mal aussi à y trouver une forme d'empathie, ou comment dire, d'accroche, Pauline.
Alors c'est vrai que c'est assez cru, mais en même temps, par exemple, les dialogues dialogues, ils sont très intéressants parce qu'on les sent jamais redondants. Les personnages, c'est pareil, le trait est assez simple. Certains diraient simpliste, mais en même temps, aucun personnage ne se ressemble alors qu'on parle de parfaits anonymes, de gens en fait devant lesquels on passerait sans se retourner. Et à chaque fois, en quelques traits, il y a quand même des choses. Enfin voilà, on est dans une ligne plutôt claire et on a quand même des personnages qui ne se ressemblent pas alors que il y a une variété de situations alors qu'on sent que ce sont tous vraiment, c'est le bas du bas de la société, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Mais c'est vrai que c'est jeté à quelques traits. Et puis, c'est une époque aussi où finalement, parfois, on prenait aussi des auteurs. Les auteurs se façonnaient en même temps qu'ils commençaient le manga. Donc, il y a quelques histoires qui sont plus ou moins abouties graphiquement. Mais il n'empêche que les dialogues rattrapent aussi tout ça.
Sur le style aussi, sur le trait Fausto Fazio.
La sécheresse du style, elle épouse la sécheresse du récit, en fait, c'est ça qui est intéressant, même si on aurait pu tout à fait dessiner ça de manière baroque, par exemple, ou beaucoup plus enluminée. Là, c'est vrai, le fait d'avoir cette disparition de décors, des cases qui se focalisent uniquement sur des expressions faciales qui sont quand même assez limitées, il y a quelque chose de tellement rentré, en fait, que ça finit par se percevoir encore plus, j'ai la sensation.
Est-ce que vous arrivez à y trouver, vous avez parlé, vous, d'être réconforté par ce genre de récit.
Je parle en mon nom.
Oui, mais est-ce qu'on peut y trouver aussi quand même une forme de jouissance? C'est-à-dire que ça ne reste pas à distance, il n'y a pas qu'un côté documentaire lointain. Est-ce qu'on y trouve une forme de refuge, je pourrais dire presque, Pauline?
Dans tous les cas, on accompagne. Alors en fait, c'est documentaire, mais on regarde pas ça à travers une fenêtre. On accompagne. On est parfois dans l'intimité d'un foyer complètement dysfonctionnel. On va être dans la rue, mais on va être sur un trottoir très précis avec des gens. On accompagne. Alors c'est parfois quelques minutes, c'est peut-être une scène, une journée dans la vie de ces personnes-là. Ça peut être toute une journée quand on est à la Banque du Sang. Mais en fait, ça. On est à côté, on est assis, on n'est pas spectateur voyeur, on est plus participant, plus promeneur en fait de ce quartier.
Tout à l'heure, Pauline, vous avez dit que voilà, c'était un style qui était pas autobiographique, mais pas neutre pour autant. Quel regard du coup porte Tsuge? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire aussi? C'est-à-dire qu'avec des dessins qui sont simples, qui peuvent être assez ascétiques, mais sans jugement moraux, sans misérabilisme, en fait, qu'est-ce qu'il en reste si ce n'est en fait de nous dire, voilà, il y a Tokyo et le mythe que vous en faites, et puis il y a ça en fait, il y a la vérité, et la réalité c'est ça, Fausto.
Bah, je pense que c'est un, effectivement, c'est pas un manga autobiographique, même si ça raconte des épisodes de sa vie ou du moins des choses qu'il a pu vivre, mais c'est plutôt du manga témoignage. Moi, j'ai la sensation, quoi. Le regard d'une personne qui a effectivement traversé cette époque, qui a rencontré ce type de personnage-là, et d'ailleurs, les deux textes dans l'appareil critique nous valident cette information. Et on a cette envie de se mettre, au centre de tous ces marginaux qui ont pu traverser la vie de Tsuge, qu'il a pu observer, avec lesquels il a pu échanger. Et ça procède, selon moi, du témoignage le plus, j'ai envie de dire, objectif possible, en fait. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a à la fois un aspect vraiment documentaire, on a probablement la subjectivité liée à ce que lui a vécu et qu'il raconte aussi, et on a en même temps cette espèce de distance qui nous permet d'entrer peut-être plus facilement à l'intérieur du récit.
Si vous deviez garder un des sept contes, lequel vous garderiez, Pauline? Celui qui vous a peut-être le plus frappé, marqué, le plus touché?
Alors, je trouve que l'entrée en matière, le premier, il est très intéressant. Donc, c'est l'histoire d'un enfant battu avec une famille où il a des grands frères qui ont envie de fuir le foyer, un grand-père qui est complètement aigri, un père maltraitant et une mère qui est un petit peu, qui oscille entre tout ça.
Et le grand-père aussi, d'ailleurs.
Hein. Oui, effectivement.
Les deux.
Voilà. Et quand on lit un peu plus sur Tadao Tsuge, on comprend que lui-même a été un enfant battu et maltraité. Et en fait, ce récit-là nous permet de suivre tout au long. En fait, on se dit que les personnages qu'on revoit après, ils vont peut-être faire partie de la vie de ce jeune garçon ou de ses frères qui s'échappent un peu de la maison. Et donc, moi, j'ai bien aimé ça, de partir de là pour après avoir un fil rouge.
Et vous, Fausto, si vous deviez regarder un...
Il y a une histoire très étrange qui détonne un petit peu par rapport à l'ensemble du recueil. C'est celle qui s'intitule Un trottoir l'été, avec un personnage sans visage qui sort en plein été pour aller à la pharmacie parce qu'il a très mal à la tête. Et en fait, il fait tellement chaud dehors que l'asphalte a littéralement fondu. Donc en fait, il se retrouve piégé sur le trottoir. Et il rencontre des personnes qui vivent exactement la même chose. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait ressentir quand on n'expérimente un cauchemar, en fait. Il y a quelque chose de très lié aussi et de très parlant, puisque c'est exactement le genre de choses qu'on peut rêver ou cauchemarder. Et j'ai trouvé ça assez brillamment retranscrit, ouais.
Conte du caniveau de Tadao Tsugi, c'est aux éditions Cornelius.
12h-13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Crescent Moon, Dance with the Monster, volume 1 de Kazuhiro Fujita aux éditions Kiyun.
Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Rappelle-toi que je suis ta créature. Je devrais être ton Adam, mais je ne suis qu'un ange déchu. Que tu prives de toute joie.
1818 sort le célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mais c'est 24 ans plus tard, en 1842, que l'on retrouve la romancière dans ce manga. Mary Shelley, devenue veuve, a besoin d'argent pour payer les études de son fils. C'est alors qu'une drôle de demande lui est faite, humaniser un monstre, rejouer son propre roman dans la réalité en ramenant à l'humanité une personne fabriquée de toutes pièces. Mais cette fois-ci, le monstre est une femme et sera baptisée Elsie, mélange entre une fermière et une cosaque. Mary Shelley, replongée dans ses tourments, va-t-elle accepter ce travail? C'est ce que raconte ce premier volume de Crescent Moon par Kazuhiro Fujita. Qu'en avez-vous pensé, Fausto Fazulo?
Très bien pitché, déjà, bravo.
Merci. Je l'ai réécrit plusieurs fois, j'avoue. Hein.
Non, je me disais justement en vous écoutant, résumer l'histoire, que le scénario était vraiment excellent. C'est-à-dire que il y a une vraie proposition en termes d'originalité qu'on croise de moins en moins, en tout cas dans la production manga contemporaine, avec cet assemblage. C'est presque une histoire de greffe. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a une mise en abîme même dans le travail du mangaka qui vient en fait greffer. Son univers assez baroque et rocambolesque à celui justement de la littérature gothique, avec cette idée justement de confronter une créatrice à une création qui n'est pas la sienne mais qui pourrait être la sienne par procuration. Et rien que le pitch, je le trouve particulièrement brillant. Et après, il y a la mise en image de Fujita qui a un style pas facile, faut le dire. C'est-à-dire que c'est un style qui est
Pauline Akiès, elle va pouvoir en parler. Voilà. Oui, j'ai un peu de mal.
Très énergique, avec un découpage qui est parfois un peu hystérique. Voilà, faut parfois un peu s'accrocher, mais je pense que ça participe aussi de sa note d'intention, c'est-à-dire volontairement parfois perdre aussi le lecteur, lui faire littéralement tourner la tête. Alors là, c'est d'autant plus pertinent que effectivement son personnage principal pratique la danse et tournoie sur elle-même, donc il y a aussi cette envie de faire tournoyer la tête du lecteur. Donc moi je trouve que parmi toutes les propositions qui sont faites justement récemment dans le manga, celle-ci est une des plus stimulantes.
Pauline Croquet, alors vous avez eu du mal au début,
oui,
sur ce style justement.
Oui, le design des personnages, moi, j'ai eu du mal à accrocher. Et effectivement, c'est vrai qu'on lui reproche parfois à Fujita ce côté qu'on pourrait croire en apparence, en tout cas un peu brouillon, avec des traits presque comme des lacérations, comme ça, très nerveux, alors que parfois la littérature gothique, on est sur des temps plus reposés. Et j'allais abandonner à un moment donné, et puis j'ai vu une case qui a retenu mon attention.
Laquelle? Dis-nous quand.
Elle arrive assez vite, donc c'est super.
J'espère pourtant que c'était pas à la fin. Parce que...
Non, mais en tout cas, c'est on a Mary Shelley qui est assoupie sur son bureau, et on a la créature de Frankenstein comme ça qui vient lui parler dans son sommeil. C'est assez tôt dans l'histoire, et j'ai trouvé cette case vraiment magnifique. Avec le profil, parce que j'avais du mal avec les personnages, mais il fait des très belles silhouettes, il a de très beaux profils, et elle est superbe, comme ça, avec ce monstre qui est penché par-dessus elle. Et voilà, et je me suis dit, il faut persévérer. Et c'est vrai que ça valait le coup de s'accrocher un peu.
Et après, est-ce que vous avez retrouvé justement ce style-là? Il fallait se familiariser finalement pour l'apprivoiser, oui. Pouvoir se repérer. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes aussi d'action où on a du mal en fait même à comprendre. On comprend le mouvement, mais on est perdu au milieu.
C'est vrai qu'il y a à la fois de la danse, il y a un côté très martial, il y a du sabre. On a aussi des foules parce qu'on voit qu'il y a des bagarres pendant des balles. Donc il y a aussi des affrontements entre des soldats et des femmes. Cosaque, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu brouillon, mais finalement il y a une géométrie quand on prend un peu de distance, il y a une géométrie dans son travail qui est assez intéressante, et il sait quand même aussi alterner, parce qu'il y a quand même des moments quasi humoristiques en fait aussi,
des
dialogues
drôle, ouais.
assez rigolos, beaucoup de couleurs chez les personnages, et en fait il alterne entre des choses très très tranchées, très nerveuses, et puis des personnages un petit peu plus bonhomiques. Donc ça c'est quand même il y a plusieurs couches de à la fois de lecture et de dessin, et il faut faut persévérer un petit peu, enfin pour ma part il fallait persévérer un petit peu, mais ça valait le coup.
On va revenir sur ces différentes couches de lecture, de dessin, mais comme tout à l'heure Pauline vous avez présenté Tadao Tsuge, ça va être votre tour
pour Kazuhiro Fujita.
Fujita, oui.
C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 80 au Japon, qui officie essentiellement dans le champ du shonen, c'est-à-dire le manga pour garçons. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette mini collection, appelons-la comme ça, intitulée donc Black Museum, il s'adresse à un public un peu plus âgé, et lui-même dit que c'est une manière un petit peu de ventiler sa production plus traditionnelle, c'est-à-dire que il prend un petit peu plus de temps pour travailler ses histoires, il a plus le temps de se documenter. On voit que c'est quand même assez documenté. Par ailleurs, il y a deux personnes qui sont créditées à la fin, dont un chorégraphe. C'est assez intéressant aussi de voir qu'il a demandé quand même conseil à quelqu'un qui avait la danse pour spécialité, afin de ne pas non plus raconter et dessiner n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui a un style très musical. Du moins, c'est un peu comme ça qu'il le qualifie. Il dessine toujours en musique, notamment avec du rock et du métal. Donc, en fait, il essaye, à travers ses dessins, de retrouver cette espèce d'énergie électrique. Et je trouve que ça sent, quand tu parlais justement de l'acération, il y a vraiment cette idée-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certaines cases, certaines pages, on a l'impression que c'est un peu des riffs dessinés, quoi. Et ça en fait un auteur assez unique. Finalement, peu connu en France, mais réédité ces dernières années de manière assez active par plusieurs maisons. Donc il est largement redécouvert. Mais au Japon, c'est quelqu'un qui a en tout cas une vraie notoriété et qui est très respecté, avec de très très longues séries comme Ushio Etora, qui est un best-seller au Japon et qui va bientôt sortir en France. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie stature, un peu moins de notoriété en France, mais qui est en passe de devenir un peu plus important chez nous.
Et justement, avec ce genre de proposition, ce Black Museum, où il va s'emparer de légendes urbaines, c'est vraiment le Londres. On retrouve un peu le côté bas-fond, d'ailleurs, aussi assez populaire, parce qu'il faut le dire que Elsie, ce monstre, c'est quand même un mix entre une cosaque et une fermière qui avait été renversée, morte, et dont on a prélevé le cerveau, et qui parle donc comme une fermière en disant du travail, s'il vous plaît, tout le temps.
Et avec un style de momie. Et ça, c'est très intéressant aussi pour les chorégraphies dansées ou même l'action, c'est qu'elle est entourée de bandelettes. Et donc, c'est vrai que ça donne aussi. Elle a des cheveux un peu ébouriffés, elle est très, très grande, très longiligne, donc ça donne aussi une créature très particulière qui tranche aussi avec le monstre de Frankenstein, aussi tel qu'on l'imagine ou qu'on l'a vu représenté. Donc ils se ressemblent, et à la fois on est sur une féminité du monstre aussi qui est assez intéressante.
Et qu'est-ce que ça apporte d'ailleurs d'avoir une monstre, une Frankenstein au féminin en fait ? Parce que là, on voit tout est du point de vue de Mary Shelley. Il y a plusieurs strates, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a le moment où Mary Shelley écrit son Frankenstein, elle a des sortes de souvenirs. Il y a le moment où en fait elle vit cette rencontre-là avec ce monstre. Et puis il y a une autre temporalité. On commence par celle-ci. C'est la temporalité du récit où elle raconte cette histoire-là des années plus tard à une conservatrice. Et donc là, elle parle d'elle en tant que femme qui écrit, qui avait été maltraitée. Donc il y a quand même une dimension qui est presque féministe dans ce livre. À quoi ça sert ?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on le voit d'ailleurs dans le travail de Fujita, c'est qu'il aime beaucoup confronter l'humanité au monstrueux, au surnaturel. C'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait, ce côté on s'apprivoise l'un l'autre. Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Mary Shelley, c'est presque sa vie à elle, et comment en fait ce monstre de Frankenstein résonne avec sa vie personnelle, qui a été marquée par des disparitions, beaucoup de décès. Elle a été énormément endeuillée, enfin voilà, il faut se repencher un petit peu sur sa biographie pour pour constater qu'elle a, elle a pas eu une vie facile et que en fait son monstre à elle a cristallisé tout ça. Et là, en la confrontant à un monstre féminin, le miroir est d'autant plus rapproché. Et puis elle-même, Fujita lui fait remarquer qu'elle-même, en fait, finalement, qu'est-ce qu'elle a à voir, quelle est la part de qu'est-ce que son monstre en fait dit d'elle. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors je sais pas, c'est féministe, en tout cas, c'est très féminin.
Oui, et puis quand on le lit, on peut le lire tout autant comme presque une histoire d'aventure que comme presque une biographie de Marie Shelley. Il faut le dire, il y a une dimension d'humour quand elle parle au présent avec cette conservatrice, mais qu'elle maltraite. Ça, elle lui parle mal, elle lui dit tu comprends rien, tu poses pas les bonnes questions, moi je vais te raconter l'histoire, ça s'est passé comme ça. Et elle-même, en fait, était maltraitée par son beau-père, donc par le père de son mari qui est décédé. Donc en fait, on a l'impression d'avoir une biographie, on pourrait presque dire que c'est une biographie de Marie Shelley, non, Fausto ?
Oui, bah c'est ce qui fait justement le manga est aussi riche, quoi. Mais je voudrais juste rebondir sur l'aspect effectivement féminin-féministe, parce que ce que je trouve assez malin de la part de Fujita, c'est que cette dimension-là, effectivement, n'est jamais forcée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on sent qu'il a décidé de, comment dirais-je, d'aller un peu dans le sens du vent, ou de se dire, bah tiens, effectivement, vu que ces thématiques sont dans l'air du temps, je vais en profiter pour insuffler ça dans mon récit. En fait, tout arrive de manière extrêmement naturelle, et pour une très bonne raison, c'est qu'à partir du moment où on décide de se focaliser sur Marie Shelley, en fait, le récit est obligé d'embrasser cette dimension féminine.
Oui, la menace sont Pauline. Quand même sept cosaques femmes qui sèment la terreur, qui déboulent en Angleterre et qui sèment la terreur. On ne sait pas si elles vont causer des attentats. Elles massacrent à tour de bras. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi, ce choix de l'héroïne vengeresse ou la femme qui a... Les femmes, le groupe féminin qui a une mission. Mais c'est vrai que ça passe dans le discours, quoi. On se focalise beaucoup sur Marie Shelley, quand même.
C'est vrai qu'il y a cet autre arc narratif. C'est pour ça que vous m'avez félicité pour mon pitch, Fausto. C'est qu'il y a...
Je réitère mes félicitations.
Merci, mais c'est vrai qu'il y a cet autre arc où il y a ces combattantes, dont l'une est morte et qui est donc ressuscitée en Elsie. Et donc, la reine Victoria est en danger. On se dit, oula, mais ça va être compliqué, je m'en sortirai jamais. Vous, Pauline, malgré vos réticences au début, est-ce que vous allez avoir envie de lire le deuxième tome?
Oui. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et est-ce qu'il va y avoir un attentat ou pas ? Enfin, voilà, le côté un peu complot à la cour m'intéresse.
Vous avez bien plus pareil pour vous, Fausto, j'imagine.
Oui, c'est d'une densité vertigineuse, mais j'ai très envie de lire la suite.
C'était Crescent Moon Dance with the Monster, volume 1 donc, de Kazuhiro Fujita aux éditions Kiun. Et le volume 2 sortira le 5 mai. Merci à tous les deux, Fausto Fazulo, Pauline Croquet. Tous les débats et toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.